Bonjour à tous, c'est Maxence Rigottier de blogcourseàpied.com. Aujourd'hui, je suis avec Emmanuel Fontaine, qui est un spécialiste des 24 heures. Tu as été troisième des championnats de France de 24 heures à Séné. Tu as également une performance de 254,762 km sur 24 heures. Donc c'est quand même vraiment brillant et c'est des très bons résultats. Du coup, je vais laisser te présenter pour que tu nous expliques un petit peu ton parcours de course à pied depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui. Tu nous expliques comment tu es arrivé à atteindre de telles performances. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour Maxence, bonjour à tous. Voilà, Emmanuel Fontaine, j'ai 43 ans. Je pratique effectivement la course à pied longue distance depuis de très nombreuses années. En fait, j'ai commencé en 85. J'avais pas 17 ans et j'ai voulu participer aux 100 km de Millau pour une première expérience. Ça s'est arrêté au bout de 70 bornes. Je pouvais plus marcher pendant 3 semaines derrière. Mais l'année suivante, j'ai voulu de nouveau retenter cette affaire-là, et puis j'ai pu clôturer mon premier 100 km, donc c'était en 86, dans un temps aux environs des 13h50. C'était assez long, mais voilà, c'était le début d'une histoire de course à pied longue distance. Voilà, j'avais jamais pratiqué l'athlétisme auparavant. Et puis voilà, après, en fait, c'était la course de l'année, c'était les 100 km de Millau, donc j'ai fait ça de 86 à 91, l'année du championnat de France, où chaque année j'ai amélioré mon chrono et je suis arrivé en 91 à 8,53. Voilà les championnats de France qui avaient eu lieu à Millau cette année-là. 92, j'ai un grave accident de parapente qui me fait mettre un terme à tout cela, fracture, tassement d'une vertèbre lombaire. Donc j'ai été opéré. J'ai eu cet aspect-là m'a permis de rencontrer Anne-Cécile. C'est-à-dire que mon accident m'a autorisé une rencontre avec Anne-Cécile qui était kiné au centre de rééducation là où j'étais soigné en fait. Voilà, notre histoire a commencé comme ça. Notre histoire de vie de couple. Pour le reste, après j'ai repris la course à pied avec Anne-Cécile justement. En 96, je lui ai dit, tiens, ce serait bien que tu essayes Mio. Donc, elle s'est entraînée 5-6 mois et puis voilà, on a fait notre premier Mio ensemble. Je crois qu'on a dû boucler ça à 11h17, donc de suite pour Anne-Cécile, manifestement des prédispositions intéressantes. Pour ce qui est du 24 heures, c'est arrivé plus tard en 2006 pour moi, première expérience à Pouvorn en Bretagne, en août 2006, où je réalise 192 km, et je me suis dit, tiens, c'est pas mal, c'est quand même pour une première fois, c'est pas si mal que ça. Ça serait bien d'essayer d'aller chercher la barre des 200 la prochaine fois, quoi. Et j'essaye ça en 2007 et 2007, mais je me casse plusieurs fois les dents, à savoir que j'y arrive pas. J'y arrive pas, alors je tente différentes façons de commencer ma course. Plus doucement, très doucement, plus vite avec des temps de pause très longs. Puis bon, à chaque fois je calais, donc je comprenais pas, je n'y arrivais pas. J'incite Anne-Cécile à se mettre aux 24 heures en 2006. Pourquoi? Parce que j'avais vu les résultats des filles qui étaient parties au championnat du monde. Et j'ai dit, tu sais, ça vaudrait peut-être le coup que tu tentes toi, parce que manifestement ça pouvait le faire. Donc elle fait sa première expérience en 2006, Anne-Cécile, elle réalise 187 km. L'année suivante, 189, je crois. Et en 2008, elle était toujours pas licenciée. Je lui dis, prends une licence et va faire les championnats de France, ça serait peut-être bien. Parce que la dernière fille qui est partie l'année dernière au Canada avait 182 km. Voilà. Et puis Anne-Cécile, qui s'entraînait normalement, comme moi, ni plus ni moins, réalise 216 km. Au mois de mai 2008, gagne ainsi sa sélection pour les championnats du monde à Séoul, en entrant en équipe de France. Et là, je la prépare, et puis quelques mois plus tard, au mois d'octobre, donc elle se retrouve vice-championne du monde, à moins de 400 mètres d'Anne-Marie Vernée, juste derrière la troisième place de Brigitte, donc vice-championne du monde individuel et championne du monde par équipe. avec une marque proche des 240 km. Alors là, je me suis dit, bon, je vois comment Anticip s'entraîne. Je pense que j'ai pas les mêmes prédispositions, mais enfin, je dois être capable de faire aussi bien. Et voilà, donc je tente, moi aussi, je continue malgré mes échecs successifs à tenter d'atteindre cette fameuse barre des 200. Et puis ça se produit en novembre 2008, au 24 heures d'Olna, où je termine deuxième derrière Bruno Obi à 228 km. Ensuite, 2009, ben en fait j'arrive à avoir exceptionnellement un dossard pour la course Open des championnats du monde à Bergame, là où Anne-Cécile, elle, est en équipe de France. Et en Open, j'arrive, malgré une course pas très bien gérée, à améliorer légèrement ma marque, puisque je suis presque à 229. Mais surtout, je termine 12e de ces championnats du monde. Donc là, c'est puisque j'étais en Open, mais je finis quand même 12e au scratch. Alors là, ça me produit un déclic en me disant, bah, finalement, les portes d'équipe de France, elles sont peut-être accessibles pour toi aussi, alors que j'aurais pas misé un copec quelques années auparavant. Pour avoir la sélection pour le championnat du monde de 2010, bah, il fallait aller chercher une barre supérieure à 240. Et c'est ce que j'arrive à faire aux 24 heures de Monaco en novembre 2009. Voilà, où là je fais 243 et j'emporte ainsi mon ticket pour participer au championnat du monde 2010 et cette fois-ci dans l'équipe de France dans l'équipe nationale. Voilà, là je prépare bien ces championnats du monde. Je fais une marque à 246 à Brive dans une ambiance exceptionnelle puisque bon, c'était en France, il y avait un bon groupe. Voilà, que des bonnes choses, quoi, des bons moments de sport, des bons moments de vie partagés avec les uns et les autres. Et puis, c'était en France, nos enfants étaient là, mes parents, mes frères étaient là, mes belles-sœurs, enfin, pas mal de proches, beaucoup d'amis, donc c'était vraiment très très sympa. Voilà pour 2010. 2011, nouvelle sélection, hélas, pas de championnat du monde cette année-là, à cause d'annulation de la ville qui était susceptible de les organiser. Donc je m'oriente en accord avec Jean-François Pontier, qui était devenu mon entraîneur depuis 2009, à participer au championnat de France de Séné, où je termine troisième à une marque supérieure à 250. Donc là, ça commence à être des marques vraiment intéressantes. Je suis pleinement satisfait de cette course, même si ça s'est pas super bien passé. J'ai failli abandonner au bout de 8 heures, puis bon, l'un dans l'autre avec ouais, l'aide des coachs, l'aide des gens autour, j'ai réussi à repartir et puis à faire une bonne fin de course. Et pour finir sur le 24, j'ai eu la chance d'être invité à Taipei en décembre 2011, donc, pour faire un 24 heures sur piste, aux côtés de grands membres du 24 heures, Ryoichi Sekiya, qui est le quadruple champion du monde, ainsi que Mami Kudo, qui est la double recordman du monde, puisqu'elle a les deux derniers records à son actif. Et là, je termine troisième de cette épreuve, ces deux athlètes d'exception, je dirais, avec une marque, comme tu l'as dit tout à l'heure, à 254,762. Alors c'est assez précis, mais sur piste, c'est pas très compliqué. De toute façon, les marques sont très précises sur 24 heures. Voilà.
D'accord, exactement. Bah, excellent parcours que tu viens de nous dévoiler. Tu as eu de nombreux échecs, ce qui est normal pour atteindre le succès. Comment tu as fait pour ne jamais abandonner? Il y a beaucoup de coureurs qui abandonnent chaque année à la course à pied, bah, comme dans toute activité. Comment toi, tu as fait pour ne jamais abandonner? Explique-nous un petit peu tout cela.
Oui, alors ça c'est assez difficile à expliquer, mais bon, je pense que la raison essentielle c'est que on partage cette discipline avec Anne-Cécile. Donc on fait pas forcément beaucoup d'entraînement en commun parce qu'on n'a pas forcément les mêmes allures de travail, mais on essaye de temps en temps. Mais voilà, elle avait réussi, elle m'a ouvert la voie en fait, hein. Ses résultats m'ont fait prendre conscience que je devais être capable aussi d'arriver à autre chose, quoi. Donc
D'accord.
je pense que ça s'est fait comme ça. Et après, ben, c'est sûr que le fait d'améliorer sa marque 6 fois de suite sur 24 heures, ben, pour l'instant, ça incite à continuer, même si je suis conscient aussi que ça ne sera pas éternel. Hein. Là, les marques sont vraiment bon. On peut toujours faire mieux, c'est évident. Mais là, ça commence à être difficile d'améliorer ce genre de performance.
D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu aimes dans le simple fait de courir et pourquoi tu cours? pour le développement personnel de toi, de toi-même, pour le plaisir, pour la compétition, pour le chronomètre. Qu'est-ce que tu aimes dans le simple fait de courir?
Bon, il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça. À savoir que ben, c'est vrai que j'étais judoka pendant de très nombreuses années. Donc la compétition, j'aimais ça. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec la course à pied. Mais bon, cet esprit compète, je l'ai depuis que je suis tout petit. Après, donc il y a l'esprit compète, ça c'est sûr. Après, il y a du plaisir à ben ouais, quand je rentre d'une journée de travail où j'ai mes 28 élèves. Et que ce jour-là, ils ont été un peu difficiles, ben, ce petit heure que je vais m'octroyer le soir, là, après ma journée, pour aller passer 1 heure, même sans avoir forcément une séance, mais un simple footing, ben, des fois, ça ressource pleinement. Voilà, il y a ce plaisir-là aussi. Il y a, comme je disais alors, le plaisir d'améliorer des chronos ou des marques. Donc ça, c'est. Et puis, ben, c'est vrai que pour un... je me considère comme un coureur lambda des pelotons, donc d'être arrivé à atteindre ce niveau-là, d'être entré en équipe nationale, d'avoir un partenaire pour nous aider un petit peu dans cette pratique, plus ces partages avec les gens de mon club, avec l'entraîneur, avec Anne-Cécile, bon, avec toute la communauté, je dirais, des gens qui parcourent la longue distance, parce que c'est une grande famille. Ben voilà, ça m'incite pour l'instant à continuer. Par contre, je pense que le haut niveau, ça aura prochainement un terme. Ça demande trop d'implication, trop d'investissement. C'est quand même, ça devient à la longue difficile de tout concilier.
Oui, parce que pour courir de telles distances, tu as des entraînements très poussés, il faut une immense organisation. Est-ce que tu peux nous raconter une semaine type des entraînements pour un coureur de 24 heures pour pouvoir atteindre tes performances? Quels sont tes types d'entraînements pour une semaine type à peu près?
Oui, alors ça dépend un peu de la période là où on se trouve par rapport à la compétition. Il y a toujours une phase de préparation où il faut déjà un petit peu perdre entre guillemets les kilos superflus post-compétition parce qu'il faut pas, enfin à moi, en ce qui me concerne en tout cas, moi, il y a toujours une certaine retenue par rapport à l'alimentation, hein, surtout avant les compétitions, je suis obligé de faire un peu plus attention. Même si le kilométrage facilite cette atteinte du poids de forme, mais donc ça, il y a toujours une petite frustration que je compense systématiquement après les courses. Donc ça commence par là, donc faire du volume en fait, hein, du volume et pas non plus à outrance parce que de toute façon j'ai pas un corps qui encaisserait beaucoup trop de kilomètres non plus. Et après, ben plus on s'approche de la séance, plus pardon, plus on s'approche pardon de l'échéance de la compétition, plus le volume va être important, la qualité aussi. Voilà, alors la semaine type, c'est assez difficile à dire, hein, mais en phase finale de préparation, ça va être entre, allez, on va dire entre 7 et 10 séances hebdo, et pour atteindre des kilométrages à 150, 160.
D'accord, donc entre 20 à 30, 20 à 25 km par jour en moyenne.
Ouais, à peu près, mais en fait, ça veut pas dire grand-chose, 20-25, parce qu'il y a des jours où ça va être 12. Il y aura peut-être un repos dans la semaine, mais par contre, le samedi ou le dimanche, dans le week-end, il y aura peut-être une grosse sortie de 5 heures, et puis le samedi, puis le dimanche, il y aura une autre sortie plus cool, mais de 2 heures seulement. Enfin, bon, voilà, c'est assez aléatoire. Hein. Bon, là, je pense que le meilleur moyen de voir ce qu'on fait, c'est d'aller sur notre blog, en fait.
Ouais,
C'est assez difficile de dire
exactement.
exactement ce que... Mais
J'aime.
tout en sachant, quand même, il y aura beaucoup de... Il y aura quand même beaucoup de séances spécifiques 24 heures. Hein. Donc là, c'est pas compliqué. On a un petit circuit autour de la maison, on prépare les bouteilles et puis c'est parti pour 2 à 5, voire 6 heures, voire 7 heures de tour autour de la maison. Quand le tour, il fait 2 km 400, 2 km 5, ça dépend du circuit, mais bon voilà. Et puis les ravitaillements sont prêts, on prend la bouteille, on marche 100 mètres et on part. Voilà.
Oui, exactement. Bah, j'invite toutes les personnes à la suite de cette interview d'aller voir votre blog anne-cécile-emmanuel-fontaine.blogspot.com où bah, tu indiques tous tes entraînements, etc., des récits bah, de tes courses. Donc c'est vraiment intéressant si un jour vous voulez vous lancer dans ce type de compétition. Et également, tu cours environ bah, 150 km ou plus par semaine. Comment
Oui,
tu fais?
ça c'est quand vraiment je suis en phase de préparation, hein. Sinon je suis plutôt à 80, 100 km maximum.
D'accord. Et du coup, comment tu fais pour garder cette motivation au quotidien pour pouvoir tous les jours courir, parce que je suppose qu'à certaines fois tu as peut-être des impératifs extérieurs à faire ou tu as moins de motivation. Comment tu fais pour toujours tenir cette régularité?
Il n'y a pas le choix, hein. Enfin, il n'y a pas, y a, enfin, si, on a, pardon, c'est une mauvaise phrase. On a le choix, mais bon, à partir du moment où on s'implique dans le haut niveau, quand je dis haut niveau, en termes de performance en tout cas, ben oui, ça sous-entend qu'il faut faire des efforts et parfois des sacrifices. Et là, ben, c'est un choix. C'est un choix. C'est-à-dire que personne ne m'impose d'aller courir. Je le veux bien. C'est vrai que si, des fois, c'est difficile, hein. Des fois, on aimerait aussi faire autre chose que la course à pied. Mais à partir du moment où je prends des engagements, ben, j'essaie d'être, d'y répondre favorablement et de pas, quand je m'aligne sur un 24 heures, dans l'objectif de faire une performance, j'essaie de pas m'y rendre, comme un fanfaron en ayant eu juste à l'idée de, voilà, de fanfaronner, quoi. Je me prépare sérieusement et j'aspire à atteindre l'objectif, même si malheureusement sur 24 heures, ce n'est jamais acquis d'avance et que l'entraînement ne fait pas tout.
Oui, c'est sûr, parce qu'à chaque course, tu as l'inconnu qui est soit la distance ou soit le temps, parce que même si on est bien entraîné, on peut très bien abandonner, parce que 24 heures, c'est quand même assez long.
Tout à fait. Bon, après, il y a une part de mental qui intervient énormément sur les 24 heures. Et je pense aussi une grosse part d'expérience. Et bon, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on a fait, je vais pas dire qu'on a fait le tour, mais disons que bon, on a progressé dans différents domaines, dans la gestion de course, la gestion du ravitaillement, les allures, voilà, et plus les expériences qui favorise cet aspect mental, hein. Je me dis, si je l'ai fait, ben pourquoi je pourrais pas le réitérer? Il y a un moment, tout en sachant que malheureusement ça ne marche pas à tous les coups.
J'imagine. Et pour toi, quelle est la part de mental dans ce type de distance?
Difficile à quantifier. Vraiment difficile à quantifier. Comme je disais tout à l'heure, au bout de 8 heures l'année dernière à Séné, j'étais à deux doigts d'abandonner, quoi. Je m'arrête devant la table de Jean-François, mon entraîneur, je lui dis bon j'arrête, je suis désolé j'arrête. Et puis il arrive à m'en booster et finalement moi je cherche une marque à plus de 250, donc ça c'est très difficile à quantifier. Il y a des courses qui vont se passer plus ou moins bien. Bon, pour moi, j'ai sur tous les 24 heures auxquelles j'ai participé, j'ai eu deux courses qui se sont passées merveilleusement bien, c'est-à-dire quasiment pas dans la souffrance. C'était Monaco en 2009, Taipei en 2011. Bon, ben ça, malheureusement, on aimerait que ça se produise à chaque 24 heures, mais c'est pas possible comme ça. Il y a forcément un moment où on va piocher, un moment où on va être vraiment dans le dur, et puis ben là, il faut prendre sur soi, quoi. Il faut essayer de, ouais, de positiver tout ça, et notamment se remémorer tous les sacrifices faits à l'entraînement au quotidien pour justement être présent là, et puis voilà, il faut retrouver l'énergie. L'énergie mentale, parce que c'est une grosse part. Le travail a été fait en entraînement, donc à partir de là, après, c'est vrai qu'il y a un aspect mental important, mais difficile de le quantifier.
Oui, exactement. Et du coup, qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand tu souhaitais abandonner, que tu allais quand même juste au bout? Qu'est-ce que tu ressentais comme sensation et qu'est-ce que t'avais comme pensée qui t'a incité à abandonner, mais pourtant tu as continué pour aller jusqu'au bout de l'effort?
Bah, ce qui tu te sens pas bien si tu veux, hein. Là je vois pour Séné donc au championnat de France en 2011, ouais, j'étais pas très bien au bout de 8 heures, quelques petits étourdissements, le bout de 8 heures, il me reste encore sèche, je suis pas bien, il faisait très chaud. Bon, je sais pas, c'est difficile, hein. Il y a des passages comme ça. Alors il faut savoir que sur 24 heures, un des principes d'Anne-Cécile, c'est de dire tant que tu peux mettre un pied devant l'autre, tu continues. Et je crois que là, c'est une part de vérité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où physiquement tu peux au moins marcher, ben, il faut continuer parce que de toute façon, à un moment ou un autre, tu vas repartir en courant. Ça, c'est une certitude. Voilà. S'il n'y a pas de gros soucis mécaniques, il faut surtout pas dire bah je suis fatigué, j'arrête. C'est une erreur, je pense. Voilà. Après, ce qui m'a fait repartir à Séné, par exemple, ben, c'est un coup de fil, hein, tout simplement. Hein. Ça allait pas bien, ben Jeff me passe un Cécile au téléphone qui était resté sur Montpellier, bon, et puis voilà, elle me lâche pas, il y avait Jean-François Pontier qui m'a bien boosté, Bono Hubi qui était là, mais des gens que je connais, que j'apprécie, qui étaient présents autour du circuit, et puis voilà, et puis c'est reparti. Et puis après, ben ouais, on mentalise, comme je dis, il faut vivre l'effort, de trop y réfléchir.
D'accord, l'idéal, et de toujours essayer de positiver. Forcément, vous allez avoir des jours sans, des jours avec. Également, dès qu'on souffre un petit peu, le mental est très habile pour qu'on se remémore les pensées négatives. Il faut absolument, comme tu l'as souligné juste avant, repenser tous les efforts que l'on a fait, les bons moments. Et tant qu'on peut mettre un pied devant l'autre, il faut aller jusqu'au bout. Parce que je pense que si on abandonne assez souvent, bon, je sais pas les distances comme les 24 heures, mais faut essayer de pas trop habituer son esprit et son corps à abandonner, parce que malheureusement, dès qu'on va avoir un petit moment de souffrance, il y a de grandes chances qu'on repense à cet abandon. Donc
Ouais, et puis c'est la solution facile.
voilà.
C'est plus facile de mettre le clignotant que de remettre le couvert.
Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, quelle est ton alimentation par rapport à ce type de compétition? Est-ce que tu peux nous évoquer, est-ce que tu
Alors ça.
prends, je suppose que oui, des compléments alimentaires, comment tu fais pour toujours avoir la pêche et surtout ne pas avoir de crampes, des choses comme ça, pouvoir enchaîner au quotidien les entraînements et pour pouvoir réaliser toutes ces compétitions.
Oui, alors au niveau alimentation, ben bon, je bénéficie là depuis quelques mois des services d'un diététicien, Nicolas Aubineau, qui est le diététicien de Nutra Athlétique. Jusqu'à présent, ça, je me gérais tout seul par rapport à ça. Comme j'ai dit, hein, je suis quand même un gros mangeur, donc il y a forcément un moment où dans la période de préparation, il y a une part de restriction. Mais voilà, il n'y a pas de souci particulier, j'ai cette chance-là, j'ai pas de souci particulier. Après, c'est vrai que on fait quand même relativement attention à ce que l'on mange, quoi. Il n'y aura pas trop de graisse ou de mauvaise graisse, en tout cas, pas franchement d'alcool ou très peu, voilà. Bon, il y a des produits comme ça, qu'il faut, à partir du moment où on vise du résultat, qu'il faut éliminer. Mais faut pas non plus être frustré, hein. Moi, je sais que, par exemple, j'ai une certaine addiction au Nutella, et voilà, je suis obligé, quoi, comme ça. Voilà. Après, pour ce qui est des compléments alimentaires, en fait, bon, très peu, je prends un peu de fer là parce que j'avais un petit souci, une petite baisse de ce côté-là, mais voilà, pas plus. Ce qui est important, c'est pas tant ce qui nous fragilise. Bon, peut-être un peu l'entraînement. Quand je dis fragile, c'est l'aspect physiologique du corps, hein. Peut-être un peu les volumes d'entraînement, mais ce qui vraiment nous entre guillemets nous détruit, ce serait plus les courses, parce que là, quand vous courez 24 heures non-stop, l'organisme à la base n'est pas fait pour ça. Donc là, on va vraiment piocher un peu au fond de soi, et il faut savoir après vraiment prendre le temps de bien récupérer. Ça, c'est indispensable pour refaire comme on dit, les niveaux, quoi, dans tous les secteurs. Voilà. Après, en course, eh ben, comme j'ai dit tout à l'heure, on a réussi à mettre en place avec Jean-François, au fil des courses, une meilleure gestion de ce côté-là, côté hydratation. Bon, mais je vois, par exemple, à mes 24 heures de Taipei, j'ai bu 28 litres, en fait, sur 24 heures. Donc, ça paraît
28
peut-être
litres
beaucoup.
d'eau avec des compléments.
28 litres de boisson, oui. Essentiellement, boisson. Donc, boisson énergétique. Nutra Athlétique, avec du Nutra Père, du Nutra Récup, de la ceinture, du Coca. Voilà, je tournais à ça pendant 24 heures, quoi. Plus d'un litre heure. Ça fait aussi de nombreuses pauses d'arrêt pipi, mais bon, c'est indispensable pour apporter l'énergie au corps, pour lui permettre de continuer à avancer.
D'accord. Et niveau alimentation, tu mangeais quoi? Tu manges quand même quelque chose de solide, je suppose, parce que c'est impossible
Pendant
de...
la course, très peu, très très peu. Déjà, tout ce qui est boissons énergétiques, hein, elles ont été étudiées pour justement complémenter un petit peu tout ça. Ensuite, il faut savoir que moi, j'ai quand même des difficultés à mastiquer, à ingérer des aliments solides, hein. Donc, à part la banane, je prends pas grand-chose d'autre.
D'accord, pas de pâte de fruits ou du pain d'épices ou un petit truc.
Un tout petit peu de barre énergétique, mais bon, ça reste quand même difficile à ingérer. Donc, dans la mesure où j'arrive à complémenter au niveau des apports énergétiques avec les boissons, c'est pas indispensable pour moi, en tout cas, il n'est pas indispensable de manger solide.
Ouais, ben.
Après, pour quelqu'un qui prend plus le temps de s'arrêter. Bon ben là, lui peut-être aura la possibilité de manger des soupes, enfin de boire des soupes, pardon, de manger des purées, des pâtes. Bon, moi c'est très très peu parce que j'ai du mal à les avaler tout simplement.
J'imagine, mais en tout cas, bah, t'as donné encore un nouvel aperçu de l'alimentation et surtout, bah, ce qui est quand même incroyable, 28 litres pour 24 heures, mais ce qui est logique parce que vu l'effort intense, plus de 254 km, du coup, t'as besoin d'énormément de t'hydrater pour ne pas tomber. Et bah, pour finir sur une dernière question, quel message pourrais-tu donner à toutes les personnes qui bah, aimeraient débuter la course à pied, mais qui se disent oui, mais moi je suis trop nul, je sais pas courir, je suis un escargot entre guillemets. Quel conseil, quel message souhaiterais-tu leur faire passer pour que ces personnes-là bah, enlèvent leur barrière mentale et souhaitent se lancer dès demain dans la course à pied?
Tu induis la réponse dans ta question, à savoir qu'on dit une barrière mentale. La priorité, c'est d'y prendre du plaisir, d'y prendre du plaisir, de pas se sous-estimer. Et puis voilà, hein, commencer à courir, même des petites distances, alterner marche-course, dès le départ s'il faut. C'est pas bien grave, hein, sans vouloir de suite atteindre des chronos, quoi. C'est ça l'erreur, je pense qu'elle est là pour beaucoup de gens. C'est vouloir de suite atteindre des chronos. Non, non. D'abord, on part du plaisir à courir. On augmente la distance, quitte à ralentir davantage. Et puis, on sentira plus ça va aller, plus on va être dans la facilité. Et à ce moment-là, on pourra rallonger la distance, on pourra envisager petit à petit d'améliorer le chrono, si chrono il y a. Mais voilà, le but avant tout, c'est de se faire plaisir.
Oui, exactement. Comme tout le monde a eu un niveau assez faible au départ. Ne croyez pas que vous êtes le seul dans ce cas de figure. Également, bah, avec la magie de la course à pied, la communauté est tellement immense que, quel que soit votre niveau, vous allez forcément bah, trouver des gens qui vous correspondent et qui auront bah, un niveau identique au vôtre.
Oui, et puis bon, les coureurs de niveau supérieur peuvent très bien s'adapter à des niveaux inférieurs. Hein. Voilà. C'est pas parce qu'on a une VMA à 19 ou 20 km heure qu'on peut pas courir à 11 ou 12. Hein. Ça, c'est une grosse erreur. Hein. Moi, j'ai du plaisir de temps en temps à partager des entraînements avec des gens de niveau inférieur ou à partager des courses avec des gens de niveau inférieur. Et ben, voilà, je me régale aussi tout autant qu'eux, quoi. Hein. Ça me fait plaisir de les accompagner. Ça me fait plaisir de leur donner le tempo. Et puis inversement, il faut pas se leurrer, il y a des gens bien meilleurs que moi aussi. Voilà, moi j'aime à dire que je suis un champion du monde de mon jardin, et voilà, ça s'arrête là, quoi. Coureur du dimanche et puis qui a réussi à faire des résultats, voilà, mais ça s'arrête là. Au départ, je suis un peu monsieur tout le monde aussi.
D'accord. Écoute, bah, merci bah, pour cette interview très enrichissante. Et bah, j'invite toutes les personnes une nouvelle fois bah, qui souhaitent te retrouver ou également retrouver Anne-Cécile sur votre blog anne-cécile-emmanuel-fontaine.blogspot.com où bah, tu évoques un petit peu tout ton tracé et ton quotidien de coureur de 24 heures.
Oui, ben ce blog a été mis en place à la demande un petit peu de notre athlétique, en fait, hein, qui nous avait incité à faire ça pour communiquer. Et c'est vrai que c'est pas mal parce qu'en fait, on n'a rien à cacher, nous. Hein. On a beau être en équipe de France, on n'a pas de secret, pas de recette miracle, pas de secret, et donc rien à cacher. Donc voilà, c'est un lieu de partage de nos expériences, de notre façon d'aborder le 24 heures. Et à la limite, il n'y a pas que des récits de mes courses, il y a aussi des récits de courses quand je vais me rendre sur des courses pour accompagner des amis, des gens que je connais, que je côtoie et à qui j'ai envie de partager ça. Voilà.
Oui, exactement. Bah, en tout cas, c'est une bonne initiative de partager ton expérience pour pouvoir aider les autres et surtout bah, faire avancer tout le monde dans le même sens dans la course à pied.
Ben voilà, tout est dit, Maxence. Merci.
Merci une nouvelle fois et je te dis à bientôt et merci pour cette interview.
Au plaisir de te rencontrer, de vivre une prochaine fois. Au
Pas de
revoir.
souci, au revoir. J'espère que cette interview vous a plu, partagez-la sur Facebook ou sur Twitter. Également, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette interview. J'espère qu'elle vous aidera à progresser et à vraiment atteindre tous vos objectifs dans la course à pied. C'était Maxence Rigottier de blogcourseapied.com. À bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles interviews d'athlètes.